Bonsoir Mireille.
Bonsoir Caroline, enchantée de vous avoir.
Eh ben, écoutez,
je suis émue.
Tout pareil. Comment allez-vous?
Je vais mal, actuellement, mal. C'est-à-dire
Qu'est-ce qui se passe?
Mais je me suis décidée à vous appeler, bon, parce qu'il y a des, forcément, on a tous plus ou moins des problèmes dans la vie.
Oui.
On gère plus ou moins bien. Et là, depuis quelques jours, j'en ai assez, je craque un peu. Donc, j'ai dit, je vais appeler Caroline pour qu'elle me fasse rire, tout au moins.
Ah, rire, je ne sais pas. Ça, c'est plutôt Paul qui est.
Qui vous fait rire. Voilà, j'ai besoin d'un conseil.
Oui.
Parce que je suis perdue. Je ne sais pas comment réagir face à certaines situations, notamment avec une amie.
Oui.
Donc, je voulais. Voilà, c'est pour ça que.
Vous avez bien fait d'appeler. On va en parler ensemble. Qu'est-ce qui se passe avec cette amie?
Bon, le souci, c'est que, bon, je vais présenter un peu la situation.
Oui.
Je suis une femme seule.
Oui.
Je n'ai jamais été mariée, pas d'enfant.
Oui.
Ma maman est décédée en 2016, suite à une maladie. Donc, je l'ai soignée, je travaillais en même temps. On n'avait pas de famille, donc j'étais la seule à m'occuper d'elle.
Oui. Cette fille unique.
Je suis fille unique.
Oui.
Oui. Et j'ai déclenché suite à la grosse fatigue, puisqu'elle était obligée d'être placée en EHPAD, ce que je ne voulais pas, mais ce qui était imprévu, puisqu'elle a perdu la tête, mais assez rapidement, ce n'est même pas Alzheimer, c'est une maladie neurologique. J'ai tenu le coup, mais j'étais épuisée déjà à ce moment-là, puisque j'ai continué à travailler. Et je me suis réveillée un soir avec des douleurs partout, dans tout le corps, que je n'ai pas prise au sérieux. J'étais voir le médecin, on m'a donné des anti-inflammatoires, ça faisait effet, j'ai continué. Donc ma maman est décédée 6 mois après avoir été hospitalisée. Enterrement que j'ai fait seule, démarche toute seule, etc. Avec une, quand je dis seule, bon, j'ai quand même une amie qui est venue, j'ai eu des connaissances du travail, etc. Mais
c'est
pas
lourd.
De famille, quand vous n'avez pas de famille, vous gérez seule.
Oui.
Voilà, c'est lourd.
Il n'y avait pas de, enfin, vous n'avez pas de famille élargie, des frères et sœurs de votre maman, des.
Ou inconnus.
Cousines.
Non, je suis d'origine étrangère, ma mère est née en France, bon, polonaise des grands-parents. Et mon père, je ne l'ai pas connu, mais c'était à l'époque, on disait yougoslave, parce que je ne sais pas de quelle région je viens.
Vous n'avez jamais connu votre père, en fait?
Non.
Non. Donc vous avez vécu vraiment en tête à tête avec votre mère?
Surtout avec ma grand-mère, plus petite avec ma grand-mère et mon grand-père, puisque ma mère travaillait.
Oui.
Jusque-là, j'avais une enfance heureuse avec ma grand-mère et mon grand-père, on va dire.
Oui, oui.
Ma mère n'était pas souvent là. Le gros souci de ma dépression et qui remonte à l'enfance, c'est le fait de ne pas avoir été acceptée par ma mère. Donc, ça, c'est un autre. Je n'appelle pas pour ça, mais tout est lié. Il y a une fragilité déjà dès l'enfance.
Et pourquoi vous pensez. Vous dites ne pas avoir été acceptée?
Elle me l'a dit, tout simplement.
Elle vous l'a dit.
Elle me l'a confirmé.
Elle vous a confirmé ce que vous ressentiez.
Oui, elle m'a dit, j'ai gâché ma vie à cause de toi.
Elle vous a dit ça?
Oui. Et enfin,
avant d'être hospitalisée à la fin de sa vie?
Comment?
Avant d'être hospitalisée dans les derniers mois?
Oui. Alors que c'est moi qui m'occupais de l'infirmier qui venait tous les jours.
Oui.
Elle a commencé
alors
par
vous
avoir
étiez là...
un escarre, enfin pas un escarre, pardon, une plaie à la jambe qui ne se referme pas. Infirmier tous les jours, week-end compris, Noël, Nouvel An. Et je faisais la cuisine, une petite maison, enfin une petite maison. La cuisine est ouverte, donc je faisais le ménage, je travaillais. Je n'ai pas de voiture, donc je prenais les transports en commun, train, etc. J'avais un métier assez nerveusement assez fatigant, on va dire. Donc
oui, et au lieu d'avoir de la gratitude, de vous remercier, d'être là à ses côtés dans ces moments-là, finalement, elle vous balance un truc comme ça.
Elle l'a fait à un moment donné en disant « je voulais une fille, mais je n'y croyais pas ». Si vous préférez, ça ne correspondait pas aux actes et aux paroles que j'ai eues dans ma vie. Le plus difficile, c'est qu'il y avait des bons moments. N'ayant qu'à, je me suis accrochée, j'aimais ma mère. Quelque part, si vous préférez.
Mais oui.
Et je l'aime toujours.
Mais oui.
Et je culpabilise parfois en disant je ne l'aime pas parce que j'ai encore des mauvais souvenirs. Et je m'étais même posé la question une fois après l'enterrement, je me dis, si on avait la possibilité de la faire revenir, de faire revenir quelqu'un décédé, est-ce que j'aimerais qu'elle revienne? J'avais du mal à donner la réponse. Oui, pour les bons moments, mais non, en réalité. Vous comprenez?
Oui, je comprends.
Tous les bons moments, c'est moi qui les ai créés.
C'est ça.
Et tu n'es jamais contente. Elle m'envoyait toujours balader, jamais assez bien. J'ai été toujours dénigrée. Oui. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas avoir de... Voilà.
Pardonnez-moi de vous interrompre en plus à ce moment-là, mais on doit le faire parce qu'il va y avoir les infos. Mais je vous retrouve tout de suite après. D'accord ? Ne raccrochez pas. Et merci d'avoir patienté.
Mais de rien.
Et pardon encore de nous avoir comme ça interrompu un peu brutalement, mais c'était l'heure des infos.
Non, voilà. Mais j'écoute tous les soirs depuis septembre, je vous ai découverte.
Ah, donc, d'accord.
Je connais, j'adore votre voix, elle est très apaisante, donc il n'y a aucun souci.
Tant mieux. Alors, oui, mais quand on parle et on oublie, effectivement, moi j'ai le cadran en face de moi, donc il ne faut pas que je loupe les flash infos.
Oui, je me doute bien.
Alors vous étiez partie en disant que depuis quelque temps, vous allez mal, vous craquez, on parlait de la relation avec une amie, mais vous me dites aussi que vous avez perdu votre mère en 2016, mère avec qui vous aviez des relations complexe qui ne vous empêchait pas de l'aimer, mais par moments elle avait des paroles assez dures.
Oui, des paroles très dures et dès l'enfance en réalité. Parce que le peu de souvenirs que j'ai, comme j'ai déménagé à 6 ans, j'ai des souvenirs avant 6 ans, si vous préférez, dans la maison précédente.
Ah bon?
Et je me souviens qu'avant 6 ans, je devais être malade, j'avais fait une bêtise, enfin pas une bêtise, j'ai dû faire pipi au lit, et elle m'a frappé, quoi. Enfin, elle m'a mis sur le mur, elle m'a frappé parce que et je me souviens, j'étais enfant, mais j'ai dit, c'est pas ma mère, c'est pas possible.
Oui, mais surtout j'ai que, dit, en fait.
Mais toute petite, enfant déjà, j'ai dit, c'est pas ma mère.
Ça.
Et j'ai eu un deuxième événement comme ça où j'avais avalé un sifflet. À l'époque, c'était des petits sifflets, j'avais avalé la petite rondelle. Bon, elle m'a tapé dans le dos, elle m'a descendu l'escalier en me tapant dans le dos, ce qui est normal, pour que j'évacue ce que j'avais avalé. Mais ensuite, elle m'a cassé ma guitare, j'avais une petite guitare. Mais même enfin, je me suis dit, mais pourquoi elle casse ma guitare? Elle s'était mise à hurler. Mais bon, ça, j'ai oublié, si
c'est
vous
voulez, ma grand-mère. Mais vous avez oublié, non, puisque vous m'en parlez, c'est des scènes.
Non, mais en vivant, je veux dire, quand j'étais enfant. Sur le moment où je me suis fait la réflexion, puis après, enfin, je suis passé à autre chose. Hein, mais c'est resté.
Bien sûr.
Parce que ce sont deux images qui m'ont marqué.
Ça reste toujours les coups, les accès de colère, comme ça. Enfin,
c'est très
effrayant. Les colères,
on en a eu rarement. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué à vie. Oui. Tout compte fait.
Heureusement, vous aviez votre grand-mère.
Oui, oui.
Qui, elle, était tendre.
Ma grand-mère et mon grand-père. Bon, mon grand-père est décédé le jour de ma communion. Enfin, il a eu un malaise le jour de ma communion. Il est décédé. J'avais ma grand-mère que j'adorais. C'était l'opposé d'une douceur, d'une...
Et pourtant, votre grand-mère maternelle.
Maternelle, oui.
Elle, très douce avec vous, très tendre.
Oui, très tendre. Donc, pour moi, c'était ma mère. Enfin, ma mère. Je n'ai pas manqué d'amour, enfin, d'affection, on va dire.
Hein, oui, c'est ça. Ben, oui, c'était elle, votre mère. C'était elle qui se comportait comme une mère, en tout cas.
Voilà, et d'ailleurs, le jour de son décès, quand elle est décédée, elle a demandé après moi, quoi. Pas après sa fille, elle a demandé après moi. Hein, donc, voilà. Mon père, j'ai oublié. Hein. Je n'ai jamais manqué de père, contrairement, c'est un peu étonnant.
Vous aviez votre grand-père aussi, qui était là.
Oui, j'ai eu mon grand-père. Bon, pas très longtemps, j'avais 11 ans quand il est décédé.
Mais oui, le jour de votre communion.
Oui, aussi. Enfin le jour, il a eu un malaise le jour de ma communion, mais après il a eu un cancer, donc voilà. Il est décédé dans l'année.
Oui, mais il a été là pendant vos jeunes années.
Oui,
quand même.
Voilà, c'est ça. Il venait me chercher au collège, en mobylette à l'époque.
Oui, oui, oui.
Donc j'ai un souvenir, ça m'a marqué.
Oui. Oui.
Et je me suis pas intéressée à mon père. J'ai peut-être posé des questions, je pense qu'on m'a dit qu'il était mort, jusqu'au jour où ma grand-mère m'en parlait un petit peu.
Ah oui. Ah oui, de quelle façon elle vous en parlait?
Ah, je ne sais même plus la conversation. Bon, elle parlait polonais, donc je ne sais plus.
Mais vous compreniez le polonais
Quand j'étais petite, oui. J'ai commencé l'école maternelle, je ne parlais pas français, paraît-il. Je ne m'en souviens plus.
Hein. Ben si votre grand-mère vous parlait polonais, forcément.
J'entendais le polonais, ma mère travaillait, donc elle parlait polonais avec mon grand-père. Je comprends encore actuellement, je ne parle plus, puisque j'ai perdu toute la famille de ma grand-mère.
Ben oui, mais c'est la langue de votre enfance, c'est votre langue maternelle.
C'est la langue de mon enfance, la nourriture, les souvenirs, quoi.
Oui, bien sûr.
Gâteaux, etc.
Ça marque à vie, c'est l'enfance.
Oui. Ça m'a marqué. Je le garde encore, quoi. Et mon père, une fois après, bon, j'ai su que c'était un Yougoslave. À l'époque, on disait Yougoslavie, puisqu'il n'y a pas eu la guerre.
Oui.
Et je n'ai jamais posé la question. Je savais que c'était comme si je savais que c'était un. Que ma mère en souffrait, quoi. Une fois, il y avait une émission, elle s'est mise à pleurer. Je n'ai jamais posé de questions.
Oui, elle avait été malheureuse par rapport.
Comment ?
Elle avait été malheureuse, peut-être, cette histoire.
Elle a dû être malheureuse, oui. Et j'ai dû le ressentir et j'ai pas osé. Par respect pour la personne, en disant que c'est pas mon histoire, c'est la sienne. Mais quelque part, je me suis peut-être trompée. Mais jusqu'au jour où elle m'a dit, j'avais 14 ans, et ça, je m'en souviens. C'est pour ça que maintenant, j'insiste en disant, je ne suis pas que polonaise, je suis aussi yougoslave. Parce qu'une fois, j'avais fait une remarque, et elle m'a dit, de loin, toi, tu n'es qu'une seule yougoslave. Donc, tout était dit. Ce jour-là, j'étais scindée en deux.
Oui.
Là, mais vraiment scindée. Ça m'a coupée. Je me suis sentie moitié polonaise et moitié, je t'appartiens plus, quoi. J'appartiens à quelqu'un d'autre. Pas. Je ne sais pas comment vous expliquer. Là, c'était vraiment le rejet.
Oui. Le rejet, en fait, autour de votre père, enfin, de ce qu'elle avait vécu avec lui, en fait.
Oui, mais... Mais... Bon, mais ça m'a choqué, ça m'a quand même choqué.
Ben, il y a beaucoup de choses qui vous ont marqué. Et vous étiez en train de me dire que, puisqu'au départ vous me parliez du, donc, vous avez d'autres été choses. Une fille très aimante, puisque vous avez accompagné votre mère, vous avez pris soin d'elle, et vous dites qu'à son décès, enfin, vous avez ressenti des douleurs dans tout le corps, douleurs auxquelles vous n'avez pas prêté attention. Vous avez pris des anti-inflammatoires.
Pas par courage, mais pas, je n'avais pas le choix. J'étais épuisée, hein, ouais. Puisqu'elle perdait la tête. Mm. C'était quelqu'un qui avait un fort tempérament, qui s'exprimait correctement, qui pouvait être très agréable à l'extérieur, qui savait argumenter. On parle des personnes âgées que l'on peut rouler au téléphone. Elle lâchait pas, quoi. Je veux dire, elle avait l'argumenté. Mm. En même temps, j'admirais ce côté-là, si vous préférez. Il y a des côtés que j'aimais bien en elle.
Oui.
Hein. Je vais pas mentir, il faut faire la part des choses.
Oui, vous avez raison, mais...
Oui, j'avais dû voir un psychiatre, il m'a dit, oh, c'est ambivalent. Ça le sera toujours, cette ambivalence restera
mais
là.
Mais oui, mais oui.
Jusqu'à la fin de ma vie, parce que je ne sais pas si je l'aime ou si je la déteste. Par moments, j'essaye de repenser aux bonnes choses.
Il y a évidemment, dans les paroles, vous... mais c'est, à chaque fois, c'est très fort. Aimer, détester.
Oui, mais ça,
on peut détester autant qu'on aime, en fait.
Oui, mais... C'est difficile quand vous n'avez pas de famille, pas de frère, pas de sœur.
Oui, c'est ça.
D'origine étrangère, pas de cousin. J'en avais qu'elle. Alors quand j'y ai oui, il faut bien que j'aime quelqu'un.
Oui. Et pourquoi vous n'avez pas, justement, parce que c'est important aussi, vous vous êtes présentée en disant « Je suis une femme seule, pas mariée, pas d'enfant. » Et on voit l'importance de cette famille d'origine, qui pourtant était réduite à son strict minimum. Qu'est-ce qui fait que vous êtes restée seule et n'avez pas construit
une vie ? Au décès de ma mère.
Ben oui, oui.
Avec toute femme. Je me suis sentie seule. Mais je disais, je n'ai plus personne. Il y a un côté où c'est un peu sensible. Et effectivement, c'est pas que je me sens seule, c'est que je suis seule.
Oui.
Heureusement, je suis une solitaire de nature. Hein? J'aime bien, c'est-à-dire que je suis...
De nature, vraiment?
Oui. Je peux être très sociable, discuter avec les gens, j'adore, j'aimais sortir. D'ailleurs, j'aimais beaucoup sortir. Ça m'évitait aussi de... Voilà. Hein, très sociable, l'opposé de ma mère aussi, très sociable. Et des moments de solitude. Bon, j'avais un métier fatigant aussi, j'étais conseillère d'éducation.
Ah,
donc,
oui.
C'est stressant.
Oui,
hein.
Oui. Puis donc, c'est une lourde responsabilité.
Oui, si on prend son travail à cœur, oui.
Oui, oui. Hein. Et vous deviez le prendre à cœur, tel que je vous entends.
Ah, je le prenais à cœur.
Donc vous êtes beaucoup occupé d'enfants.
Pardon ?
Vous êtes beaucoup occupé d'enfants.
Oui, j'adorais ça.
Vous n'en avez pas eu, mais vous vous êtes occupé, c'est ça, et pas...
Oui. Mais peut-être que le fait d'avoir souffert, enfin souffert, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme.
Si, c'est le bon terme.
J'ai la larme à l'œil. Je voulais éviter aux autres de souffrir aussi.
Oui.
C'est-à-dire que vous percevez le... Je ne supportais pas la souffrance chez les autres.
Oui.
Pardon, excusez-moi.
Non, mais je vous en prie.
Je m'en prends. Dites-moi une bêtise, ça va aller.
C'est pas rien d'être conseillère d'éducation. Il y a le mot éducation. Vous nous parlez de l'éducation que vous avez reçue et de... C'est pas rien, votre métier. Il y a une part de réparation dans tout ça aussi.
Je ne sais pas, oui, je me suis jamais posé la question dans ce terme-là. En tout cas, mon but était d'aider. Mais inconsciemment, je voulais être
sociale,
je voulais être psychologue.
Et être, voilà, ben oui. Et au contact d'enfants.
En mathématiques, voilà.
Psychologue, vous n'étiez pas bonne en maths ?
Non, je n'étais pas bonne en mathématiques.
Bah, alors moi, j'étais pas bonne en maths non plus. Hein. Ça n'empêche pas de devenir psy.
Ah bon ?
Oui, à la fac, il y a des stats. C'était redouté par tous les étudiants. Hein. On redoutait tous parce que justement, on était plutôt littéraire que scientifique.
Voilà, oui.
Mais bon, voilà. Moi aussi, je déteste les maths et vous voyez, ça n'empêche pas d'être psychologue.
Oui, je vais encore des. Mais bon, À l'adolescence, c'est difficile, on a des projets. Oui. À l'époque, on n'était pas aussi bien conseillé que l'on conseille maintenant.
Mais oui. D'où votre métier.
Voilà, je voulais être, je voulais faire les beaux-arts, après je voulais être social, après...
Tiens, les beaux-arts. Vous dessinez, vous peignez, qu'est-ce que...
Plus jeune, je peignais, après ça s'est arrêté à l'adolescence.
Et pourquoi?
Parce que je faisais du basket, parce que j'ai travaillé très tôt en entrant en fac. Après le baccalauréat, j'ai été surveillante, donc je faisais, j'allais en fac, j'avais plus le temps de faire quoi que ce soit. Donc ça c'est...
D'accord.
C'était un peu trop chargé, quoi.
Et vous dites, parce que je vois que le temps passe, il est minuit 14, je ne voudrais pas que vous vous raccrochiez sans avoir pu me dire, au fond, parce qu'on parle de votre vie. Non, mais j'essaye de... Vous me dites qu'évidemment, votre mère était devenue votre seule famille et qu'à son décès, vous vous êtes sentie seule. De fait, vous étiez seule. Et qu'est-ce qui fait qu'actuellement, vous me parlez d'une amie aussi?
Oui, enfin, non.
Qu'est-ce qui fait que vous craquez en ce moment?
Oui, je vais essayer de synthétiser, je vois les minuit 10. Avant d'ici, j'ai accumulé depuis quelques années beaucoup d'événements négatifs, on va dire, hein, mais un peu, qui sont surmontables, mais là, c'était l'accumulation, hein, sur plusieurs années, quoi. Je me suis fait opérer d'un anévrisme cérébral, et ça me fait penser à la dame, là, précédemment, il y a deux jours, qui a eu un malaise.
Oui.
Hein, j'ai fait un malaise aussi, on l'a découvert.
D'accord, vous avez pu être opéré de cet anévrisme.
Ah, il ne vous laisse pas le choix.
C'est-à-dire que, oui, quand on peut opérer, oui, c'est ça.
Oui, parfois. Je ne sais pas où il est situé.
Voilà.
Bon, je ne vais pas en parler pour ne pas stresser la dame, mais il faudrait qu'elle se détende.
Mais tout est mis en place, oui. Oui, si elle écoute, c'est ce que je veux, moi aussi,
parce que
je lui disais.
Bon, j'ai été très bien accueilli. Ils expliquent les choses un peu trop, mais moi, je suis curieuse, donc j'ai posé beaucoup de questions. Hein. Donc, ça passait très bien avec l'équipe, mais j'en ai appris un peu trop, quoi. Donc, après, j'ai un peu angoissé quand même.
Vous m'étonnez.
Mais toujours toute seule.
Toute seule,
je prenais le train pour aller au rendez-vous. Ah. Voilà. Je prenais le train pour aller au rendez-vous. Je me suis toujours fait opérer toute seule. On m'a découvert un deuxième anévrisme en formation.
Comme si aviez quand même quelqu'un, une bonne étoile, c'est pas rien.
Oui, j'ai des bulles dans la tête, quelque part. Une bulle de champagne dans la tête. Et normalement, je dois être suivie, mais j'ai tout abandonné. Là, je me fais plus suivre.
Pourquoi? Pourquoi vous avez abandonné?
C'est trop, parce qu'il y a eu ma maman après. Deux ans après, ma mère tombe malade. Moi, après, je déclenche la polyarthrite.
Une polyarthrite rhumatoïde?
Oui.
Ça, les douleurs, les prémices de
maladie auto-immune. Le temps que les médecins, que la médecine ne prennent ça au sérieux, le temps de faire des examens, je n'avais pas le temps. Je ne vais pas mentir, je n'avais pas le temps. Je ne prenais pas ça au sérieux. Je prenais des anti-inflammatoires, ça se passait bien, ça allait, hop, je continuais. Ma mère est décédée. Je me suis effondrée deux ans après. Après le contre-coup, je me suis effondrée. C'est-à-dire que je sentais que je descendais. J'ai repris le lycée, le collège, pardon.
Oui.
J'ai fait une gastro. Je n'ai jamais pu remettre les pieds dans un établissement. Je me suis effondrée.
Oui.
Ça a été la totale, toute seule. Hein,
vous étiez épuisée, en fait. Vous avez porté trop de choses toute seule.
Trop. Ouais.
Donc là, vous êtes en arrêt, en longue maladie.
Donc je ne pensais pas être définitivement en arrêt. Mais tout compte, là, actuellement, depuis janvier, je suis en pré-retraite pour invalidité.
D'accord.
Avec un demi-traitement. Or, j'ai encore un crédit maison qui se termine l'année prochaine.
Un demi-traitement par rapport à quoi?
Par rapport à mon salaire classique.
Ah oui, d'accord, oui.
Donc là, dans deux mois, je n'ai plus le droit à la MGEN, donc je vais me retrouver avec les crédits que j'ai. Hein, je vais avoir quoi? 200 euros pour vivre et pour nourrir mes chats, surtout mes chats. Et moi, après, avec le reste, je ne vais pas m'en sortir. Donc, je devais vendre la maison dans laquelle j'habite actuellement, hein, qui est la maison de ma maman, mais avec qui j'habitais. J'avais acheté une autre maison parce que je ne supportais plus ma mère. Je ne supportais plus. J'en avais assez de ces réflexions. Je ne me disputais pas. J'étais la bonne petite fille qui prenait des coups et qui avait mal, qui n'avait pas la force d'argumenter ou de rétorquer. Tellement l'émotion me prenait, si vous préférez. Ça s'est estompé en vieillissant. J'avais du répondant où j'ai dit j'arrête, je réponds, de toute manière ça ne change à rien. Donc ça montait jusqu'au jour où elle s'est énervée, elle m'a lancé un magazine dans la tête. Et comme je continue à argumenter toujours poliment, hein, j'ai été bien élevée, toujours poliment.
Il y avait une grande violence chez votre mère.
Oui, beaucoup de violence.
Oui.
Et ce jour-là, j'étais assise et je continuais à discuter parce que je n'avais pas le droit d'argumenter, elle n'écoutait pas si vous préférez, aucun. Pas de remise en question, pas...
C'est ça.
J'étais une chose, en réalité. Elle s'est jetée sur moi, elle m'a griffée. Elle m'a prise. Et j'étais assise, je suis adulte, hein, je me suis dit, Mireille, jusque quand tu vas supporter ça?
Oui.
Jusqu'où tu vas accepter?
Oui.
Et là, je me suis levée, je vous prie de m'excuser, je l'ai collée contre le mur, comme on peut dire. Hein, je suis assez grand, je suis 1m76, je l'ai collée contre le mur. Mais je vous assure que, heureusement qu'on peut résister, mais je crois que toute ma haine est repassée ce jour-là. Enfin, sa haine, hein, elle est repassée, pas la mienne, tout compte fait.
Oui, mais vous ne l'avez pas frappée.
Non.
Non, mais vous l'avez à un moment, physiquement... c'était stop. Vous avez été, vous aussi, prise dans un élan d'arrêter, de ne plus... Mais oui. Vous n'avez pas été comme elle. Vous l'avez attrapée pour... C'est une façon de
ne plus
vous laisser faire.
Non, non, là, j'ai été violente. J'ai prise à la gorge. J'ai menacé, j'ai dit, tu veux quoi maintenant? Je dis, qu'est-ce que tu veux? Je dis, tu veux ma mort? Tu n'y arriveras pas. Je dis, tu veux que ça se termine? Pour moi, parce que quelque part, c'était ça. J'avais l'impression, elle voulait que je disparaisse, inconsciemment, bien sûr. Hein?
Oui, mais c'est terrible de grandir en se disant cela. Et
oui. Mais bon, j'ai grandi...
Vous portez tout ça aussi, enfin, il y a...
Comment y a même...
Vous portez tout ça aussi. Enfin, c'est pas étonnant que vous vous soyez effondré.
Oui, et parce que c'est même plus douloureux que je ne pensais. C'est-à-dire que le mal qu'elle m'a fait était beaucoup plus douloureux que je ne croyais. Beaucoup plus intense. Et je me suis rendu compte de ça.
Mais violence. C'est maintenant qu'elle n'est plus là.
Et maintenant aussi. Qu'elle n'est plus là.
C'est
et je me suis tellement effondrée, bon c'est lourd, je regarde l'heure, je me suis tellement effondrée comme si je n'existais pas. C'est-à-dire que j'ai fait une dépression, je ne répondais plus au papier, je ne faisais plus rien, comme si je n'avais pas le droit d'exister, comme si
sans
âge je n'existais plus.
Comme si en fait, vous ne vous occupiez pas de vous, enfin comme si, c'est ça,
oui.
Votre vie n'avait pas d'importance.
Après, quand ça allait mieux, je dis, mais pourquoi tu as fait ça? Comme si, alors que c'est moi qui gérais ma vie. Hein, je gérais tout ça, j'allais travailler, c'est moi qui ai passé mon concours.
Oui, mais là, vous avez
jamais aidé.
Oui, mais là, vous avez été fauché. Enfin, vous avez su, bien sûr, et d'ailleurs, au fond, ne dépendre de personne, ne compter que sur vous-même. Comme si c'était dangereux.
Inconsciemment.
Mais bien sûr, inconsciemment. Mais bon.
Et là, après, je me suis rendu compte, mais. Et je dis, pourquoi tu t'effondres à ce point-là? Parce que. Comme si je n'avais plus de raison d'exister, parce que je n'avais plus à lutter contre quelqu'un.
C'est ça, c'est vrai.
Et je suis
c'est très
effondrée.
Juste ce que vous dites, oui. Et cette énergie vous tenait, et à un moment, votre mère n'étant plus là, votre mère étant morte...
J'ai pas de raison d'exister, puisque je n'avais...
Ouais.
Personne ne m'attaquait, je n'avais pas à me battre pour survivre, si vous préférez.
Vous existiez dans le combat.
Analyse, hein.
Oui, mais... Vous êtes en thérapie?
J'ai essayé... Bon... Mais bien avant. Hein, mais j'ai vu deux psychiatres qui, au bout de trois séances, m'ont libéré. Mais c'était déjà avant les enfin, avant
comment
certains événements.
Comment ça, vous ont libéré?
Oui, ils m'ont libéré. Mais non, mais au bout de trois séances.
Mais c'est rien, donc, trois séances.
Bah non, merci, au revoir. Donc, bon, c'est tout.
Non, c'est...
Hein. Et puis, là, après, pour le rectorat, j'étais obligée d'avoir un suivi, mais je suis...
Vous n'êtes plus là. Zut, on a un souci, ça a coupé d'un coup. J'espère qu'on va pouvoir la retrouver, Mireille, assez rapidement, parce qu'il est minuit 22, et ça m'ennuierait qu'on se quitte comme ça sur un problème de liaison téléphonique. Il faudrait que Paul, qui est à l'extérieur... Non, Mireille, vous êtes là?
Oui, je suis là, je suis là.
Ah, mais je suis rassurée de vous retrouver, ça m'aura ennuyé qu'on se...
Oui, moi aussi.
Que l'échange se termine... comme ça, oui,
comme
donc.
Ça, bêtement. Je ne sais plus, vous en étiez pas contre.
Bah, oui, vous disiez, donc, vous parliez des problèmes de rectorat.
Oui, donc j'ai vu, voilà. Mais ça ne m'a pas suffi, puis je me suis remontée avec un traitement, si vous préférez.
Oui, mais alors, aujourd'hui, là, parce que vous me dites, par exemple,
oui,
suite aux anévrismes cérébraux qu'on a découvert, où vous avez été opéré, vous devez avoir un suivi, c'est faire de la prévention.
Je devais l'avoir.
Vous avez tout arrêté. Il faut reprendre.
Oui, mais j'ai des chats. Je suis toute seule. J'ai six chats.
Et alors?
Enfin, c'est idiot ce
les
que chats, je
veux dire. Ça n'empêche pas de vous soigner.
Idiot, hein. Oui, je vais y aller quand même pour le deuxième. Mais je n'ai plus la force. Parce que bon, avec la dépression, même si je m'en remets, la polyarthrite, hein, j'ai pas le bon traitement. C'est épuisant. Et c'est pour ça que j'ai appelé, parce que c'est une maladie invisible qui n'est pas considérée par les autres.
Oui, qui fatigue énormément.
Énorme. Épuisé, c'est même pas une fatigue.
Oui.
Et
vous
même
êtes suivi par un rhumatologue?
Oui.
Alors il faut trouver, oui c'est ça, il faut...
Il n'y a que les immunosuppresseurs, mais c'est un poison pour... Ouais. Voilà, c'est un autre poison si vous préférez.
Qu'est-ce qui pourrait... Parce que j'entends que la douleur, depuis le décès de votre mère, depuis que très justement vous n'avez plus à lutter, C'est comme si vous vous effondriez, comme s'il n'y avait plus de raison d'être. Mais la douleur, elle suinte par tous les pores de votre peau. Et, vous voyez, c'est la dépression, c'est la douleur morale, c'est le corps, c'est la polyarthrite. Alors, bien sûr, il faut continuer, il faut revoir les équipes pour... sur le plan la cérébrale pour que vous soyez faire de la prévention en fait continuer un suivi.
Il n'y a pas de prévention Carole, il n'y a pas de prévention.
Non, mais ce que je veux dire par là, oui, il y a eu l'opération, mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il demande à vous suivre et vous avez arrêté le suivi. C'est mieux de le faire.
Oui, j'en suis un peu gênée, mais j'étais prise dans depuis une décennie.
Non, mais il y a pas à être gênée. C'est comme ça. C'est-à-dire que
je me suis effondrée, voilà.
Vous vous êtes effondrée.
Il y a trop de choses.
Il y a trop de choses. Oui, mais il y a trop de douleurs en fait.
Oui.
Et forcément, en plus, quand on souffre comme ça physiquement, ça rejaillit aussi sur le moral. Vous êtes épuisée. Qu'est-ce qui pourrait comment dire, que vous ayez, vous pourriez trouver un peu de douceur, un peu d'apaisement. Est-ce qu'il n'y aurait pas de possibilité de demander... alors, vous avez vos chats, vous allez me dire, mais je pensais partir en cure un peu, demander à votre rhumatologue s'il ne peut pas... Vous voyez, qu'on prenne un peu soin de vous.
Mais j'ai les chats. Non, j'ai les chats. J'ai 6 chats. Bah,
les chats, vous savez, votre vétérinaire, il y a des... Il y a plein d'associations où...
je ne saurais pas.
Bah, il y a des personnes bénévoles qui viennent nourrir les chats. Hein,
qui
aiment les animaux.
Non.
Hein.
Pardon, oui.
Non, c'est pas une raison. Non, Mireille, je suis désolée. J'aime profondément les animaux. J'en prends grand soin.
Oui.
Mais je ne peux pas entendre l'argument. Je ne peux pas m'occuper de moi et me soigner parce que j'ai des chats.
Non, c'est pas l'argument que j'avance.
Parce que d'abord, vos chats, ils ont besoin aussi que vous continuiez à pouvoir vous occuper d'eux, donc à être un minimum.
Ce n'est pas la véritable excuse. C'est pas ça que j'essaye de dire, mais j'ai pas la force physique et psychologique parce que j'ai vécu l'opération. Je sais ce que c'est. Donc,
vous pourriez faire pour récupérer un peu de force?
J'ai besoin d'argent, en réalité, si vous préférez. Il faut que je me débarrasse de la maison dans laquelle
je vis
actuellement.
Comment se fait-il que vous n'ayez plus droit à la MGEN?
Parce que je suis maintenant en retraite, là, depuis janvier.
Bah oui, mais normalement, vous avez cotisé toute votre vie.
Ah non, c'est un complément, hein. C'était un complément pour maladie. Là, je n'y ai plus droit. Là, le rectorat me verse une certaine somme.
Il faut voir avec les services sociaux, il faut voir...
Ah, je suis suivie. Non, je sais ce que j'avance.
Bon, alors peut-être qu'il faut vendre cette maison et que vous récupériez de l'argent. Voilà. Mais à ce moment-là, j'entends que dans votre état d'épuisement, c'est trop actuellement. Mais vous savez, un agent immobilier, ils savent s'en occuper.
Hein. Mais je dois vider la maison. L'autre maison que j'ai achetée, hein, j'ai laissée à l'abandon. Suite à la maladie, donc rien n'est fait.
Alors, vous voyez, c'est pour ça. Donc, vous êtes, il faudrait, pour avoir de l'argent, vendre la maison, mais vous êtes épuisé. Donc, peut-être que la priorité, c'est de reprendre des forces. Concrètement, je réfléchis avec vous, comment pourriez-vous essayer de reprendre des forces pour pouvoir...
Moi, je pense que je vais y aller. Caroline, j'ai besoin, vous savez, j'ai réfléchi, je me contente de peu maintenant. Même vivre avec peu, ça me suffit du moins que je puisse me nourrir.
Vous ne pouvez pas vivre avec 200 euros. Enfin...
Non, là, je ne peux pas. Je ne vais pas y arriver. Donc, il faut que je vende absolument la maison. Moi, maintenant, je vais être tranquille dans l'autre maison. Je ne veux pas faire de travaux. Le bas va me suffire, puisque comme je suis fort fatiguée, je n'ai pas besoin d'un château.
Mireille, votre vie est compte. C'est comme si vous ne vous effacez pas là, progressivement de tout. Vous n'avez que 59 ans.
C'est ce que je fais, Caroline.
Vous êtes trop jeune pour vous effacer. Ne laissez pas l'entreprise de démolition de votre mère continuer là. Vous avez besoin d'aide, en fait.
Mais en même temps,
c'est très juste ce que vous dites. Comme si, en fait, ce qui vous tenait, c'est de lutter. Vous avez lutté toute votre vie et vous avez beaucoup porté. Votre mère, l'objet de votre lutte, que vous aimez autant que vous aimez. Et vous avez été une fille très aimante, vous. Mais il y a cette douleur en vous, il y a cette douleur de ce rejet. Et là, vous avez besoin d'être d'un endroit pour déposer encore cela, pour être accompagné. Vous ne pouvez pas tout porter toute seule. Vous le ressentez?
Je le ressens, puisque je cherche une adresse, justement, pour en parler. Parce que, justement, ce qui m'a fait appeler, c'est le regard d'une amie, à qui je ne sais même pas répondre, qui dit « Mais tu aurais dû vendre ta maison, mais ça fait déjà des années. » Mais j'étais en dépression, bien sûr. J'ai traîné, peut-être.
Oui, vous n'arrivez pas.
Oui, je n'y arrive pas. La polyarthrite, ça ne se voit pas quand on
non,
voit.
Non, non, mais c'est extrêmement, oui, oui, c'est épuisant.
C'est très violent.
Est-ce que vous cherchez une adresse? Est-ce que vous avez demandé à votre médecin traitant? Est-ce que
non, pardon, Caroline.
Est-ce que vous avez un centre médico-psychologique près de
chez vous? Oui, j'ai fait, mais non, c'était vraiment pas intéressant.
Trouver un psychiatre qui pourrait vous faire des feuilles d'assurance maladie ou vous pourriez être remboursé.
Oui, oui, oui.
Non, mais c'est. Enfin, vous ne pouvez pas rester comme ça sans aide et que votre vie se réduise comme une peau de chagrin là, ça va pas.
Oui. Oui, je sais. Et c'est pour ça que je veux faire la démarche pour m'aider parce que je n'ai pas d'écoute au niveau des amis, si vous préférez.
Oui, je comprends. Vous êtes trop seule là.
Et je suis
vous êtes trop seule, très fatiguée pour ne pas dire épuisée. Donc il faut que vous trouviez de l'aide là. Voyez, et quand vous irez mieux, quand vous aurez repris des forces, vous pourrez entreprendre les démarches. Parce que vous avez une énergie incroyable et des ressources incroyables pour avoir tenu. Mais oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, ça s'entend. Vous avez aussi une vitalité. Mais pour le moment, c'est en train de se retourner contre vous. Cherchez de l'aide auprès de quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner. Pardon. Il va falloir, moi, que je vous laisse.
Oui, je vois l'heure.
Ce soir, parce qu'il est minuit 30 et je dois rendre l'antenne là, assez à l'heure. Mais vraiment, occupez-vous de vous, soignez-vous, Mireille. Et puis, n'hésitez pas à me rappeler pour me donner de vos nouvelles.
Oui.
Je vous embrasse.
Caroline. Merci à vous.
Je vous embrasse. Au revoir.
Merci, au revoir.